Aujourd'hui, à Rencontre, il est question d'un saint qui nous intriguait beaucoup quand nous étions jeunes. On en parlait beaucoup, aussi saint Siméon Stylite, on parlait de ces saints qui avaient vécu sur des colonnes. Et celui-là est mort en l'an 459 et c'est le plus illustre de tous. Il a vécu sur une colonne durant des dizaines d'années. D'où il prêchait et aux foules, il a eu un rayonnement énorme, énorme. Saint Siméon Stylite, qui s'est pour ainsi dire converti à l'âge de 13 ans, en entendant les béatitudes, ce sermon, ces béatitudes qu'a prononcé Jésus, vous les connaissez, n'est-ce pas? Il a passé tellement de temps, Saint Siméon, sur cette colonne, que ça en a fait un saint qui est évidemment inimitable. Et puis, on trouve dans cette vie des actions encore plus compliquées, plus étranges, typiques de l'époque. Ça semble passer tout... on a de la misère à y croire, quoi. Mais c'est que Dieu n'a pas donné à Saint Siméon ce rôle dans notre monde, sur notre planète, pour être simplement le modèle de vertu ordinaire. Non, c'est pour faire voir par expérience que quand on va jusqu'au bout, on peut faire des choses absolument phénoménales. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de son inspiration, peut-être. Et l'assistance de Dieu apporte à un homme faible, à une femme faible, des capacités surprenantes. On le voit dans la vie de certains saints. Prenons simplement, puisqu'on en a beaucoup parlé, puis elle est morte au mois de septembre dernier, Mère Teresa, une femme faible, une petite femme, une femme qui n'a presque rien à offrir, qui a l'air de rien du tout, finalement. Moi, je l'ai rencontrée, je l'ai vue à Turin, je suis allé la chercher pour lui faire voir le Saint-Suaire de Turin en 1978, au mois d'octobre. Elle prêchait dans une église et je l'ai amenée voir ça. C'était une entente qu'on avait faite. J'étais tout à fait étonné de voir cette petite femme de rien du tout. Mais quelle puissance elle avait à l'intérieur, par sa foi, hein. Et alors Dieu a élevé Saint Siméon sur cette colonne comme pour servir, je dirais même aux anges et aux hommes, du spectacle d'une vertu plus qu'humaine presque, et pour être finalement dans l'ordre de la grâce, que sont les prodiges au cours des siècles et des siècles. Prenez simplement au XXe siècle Marthe Robin qui a vécu 50 ans sans manger, sans boire, sans dormir. Alors, ce sont des choses étranges qu'il ne faut pas ignorer, mais devant lesquels on peut se sentir trop petit. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est simplement de comprendre que Dieu peut faire de grandes choses en nous, et il les fait. Il suffit de nous abandonner à lui. Et ce saint, donc, a été, dans sa vie puis dans sa conduite, un sujet d'étonnement. Hein? Non seulement pour tout l'Empire romain à son époque, il existait encore l'Empire romain, mais encore aux yeux des étrangers, puis des infidèles. Il suffit de voir à l'époque, mettons, les textes de Théodoret, cet évêque qui a écrit sa vie et qui l'a connu. Ben, on voit que les Perses, là, les Iraniens d'aujourd'hui, les Mèdes au nord de la Perse, là, les Sarrasins, ou si vous voulez, les Arabes, les Éthiopiens, les Ibériens, ou si vous voulez, les Espagnols, les Scythes, là, au nord de la mer Noire, l'ont en très haute considération et les empereurs romains sollicitent même, ils viennent le voir, ils lui demandent de prier pour eux. Les empereurs romains le consultent, ils viennent jusque là où il est, en Syrie, car c'est un Syrien, ils le consultent sur des affaires importantes, lui qui est sur sa colonne. On doit avouer, évidemment quand même, que ce qu'il a fait est plutôt admirable et ce n'est pas imitable. Ne cherchez pas à monter sur des colonnes, il fait trop froid dans notre pays. Et je pense que si on comprend les choses dans leur époque, eh bien ça peut nous édifier, pour la simple raison que Il est difficile de penser à la grande ferveur de Saint-Siméon sans être plutôt confondu dans le fond de notre cœur. Parce que nous sommes quasi indifférents, nous, quand il s'agit de Dieu, de l'aimer, puis de nous donner à lui, comme notre indifférence est grande. Saint-Siméon, c'est le fils d'un pauvre berger. Il est né sur les confins de la Syrie. Sa mère s'appelait, écoutez bien, Matane. Oui, comme Matane. Ça veut probablement dire Marthe. C'est donc un Syrien, il commence par garder les troupeaux de son père, et sous ce rapport, on peut le comparer, disons, au patriarche Jacob, Moïse, à bien d'autres de l'Ancien Testament, et les bergers sont innombrables, et encore, dans le Nouveau Testament, on a eu des bergers, des bergères, qui ont été très illustres. Germaine Cousin, Sainte-Germaine Cousin, en particulier, tant d'autres. À 13 ans, comme je vous ai dit, il est spécialement ému en entendant un jour à l'église la lecture des béatitudes évangéliques. Vous les connaissez. Je vous les relis. Elles sont tellement belles, il y a des gens qui les ont peut-être moins souvent entendues, n'allant pas à l'église ou n'étant pas catholiques. Heureux, c'est le Christ qui prononce ça, sur le mont dit des béatitudes à Capharnaüm, là où le christianisme a commencé. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés, et heureux ceux qui ont de la miséricorde, car ils obtiendront miséricorde, et heureux ceux qui ont des cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Et aussi eux qui travaillent à établir la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et heureux ceux qui sont persécutés en voulant être justes et honnêtes, car le royaume de Dieu est à eux. Oh, heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Oui, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est un des plus beaux discours de Jésus. Or, à 13 ans, il y était déjà frappé, lui, par tout ça, Saint-Siméon. Alors, il s'adresse à un vieillard pour avoir des explications, puis il demande comment il pourrait obtenir ce bonheur que les béatitudes promettent. Ces paroles de Jésus, ces paroles fantastiques, frappent son cœur. Pourquoi ne pas y croire? Alors, la réponse n'est pas facile. C'est plutôt exigeant ce qu'il entend. Écoutez bien, ce qu'on lui répond, c'est « Mon enfant, il faut faire des prières continuelles, des veilles, des jeûnes. Il faut accepter les humiliations, les larmes. Il faut savoir supporter patiemment les persécutions. » Et telle est, d'après ces textes, la voie qui conduit au vrai bonheur. Une vie de solitude offre les meilleures occasions de pratiquer la solide vertu. C'était l'époque du monachisme, c'était l'époque des gens qui fuyaient la civilisation en pleine décadence. Alors, c'était la réponse. Alors, sur cette réponse, donc, Saint-Siméon, le petit Siméon, se retire à l'écart. Il se prosterne la face contre terre, puis il demande à celui qui veut le bonheur de tous, Dieu, de le conduire dans les sentiers qui mènent à la perfection, puis au bonheur. Bienheureux, bienheureux. Et comme il prolonge sa prière, il finit par s'endormir, et durant son sommeil, il a une vision qu'il va souvent exposer par la suite. Voici sa vision, et c'est tel qu'il la raconte. Il me semblait que je creusais les fondations d'une maison, et comme je m'arrêtais de temps en temps pour respirer, j'entendis une voix qui me disait « Creuse plus profondément ». Cela s'est reproduit 3 ou 4 fois, et à la fin, la voix m'a dit « C'est assez profond. Construis maintenant l'édifice à la hauteur que tu voudras ». Et l'auteur Théodoret, l'évêque Théodoret qui a écrit sa vie, qui nous a laissé donc tout ce récit, ajoute « L'événement à réaliser la prédiction. Les actions de cet homme, Siméon, cet homme extraordinaire, ont été tellement au-dessus de ce que peut la nature qu'elles demandaient de profondes fondations pour assurer la solidité de l'édifice. Alors, sur ces entrefaites, Siméon se joint à quelques ascètes du voisinage et demeure 2 ans en leur compagnie. Bon, il est désireux s'élever à une plus haute perfection. Il va ensuite à Téléda, au monastère fondé par 2 saints. Oh, je vous donne les noms, ils ont de curieux noms, Eusbonas et Abibion. Bon, c'est fondé donc par 2 saints qui ont eu pour successeur Iliodore, entré au couvent, lui, à l'âge de 3 ans. Oui, on entrait, même il n'y a pas si longtemps, très jeune au couvent. Hein. Prenez Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, 15 ans. Sous la conduite de ce personnage renommé, donc, Iliodore, là, Saint-Siméon passe 10 années, puis il surpasse en austérité les 80 religieux, ses compagnons. Tandis que mange seulement tous les 2 jours, lui, il peut passer toute la semaine sans prendre de nourriture, mais là, les supérieurs n'approuvent pas tellement ce genre d'excentricité. Alors, il s'efforce de le convaincre, mais c'est inutile. Il voudrait le modérer hein, dans ses excès. Un jour, Siméon décide donc de faire une ceinture avec des branches flexibles de palmier, puis il la serre très fort autour de sa taille, sous ses vêtements, et la plaie que lui fait cette ceinture s'envenime et il en coule du sang. Alors son secret est découvert, au bout de 10 jours. Le jeune moine Siméon est dénoncé, on le réprimande, on le débarrasse de l'instrument de torture sans réussir à lui faire appliquer un remède sur l'ulcère que ça a fait. Alors après quelques entreprises du même genre, on décide qu'il faut le congédier et il est devenu plus ou moins un mauvais exemple pour ceux qui pourraient dérailler un peu comme lui puis être tentés de présumer de leur force. Mais Siméon, en quittant le couvent, s'enfonce donc dans la solitude des montagnes. Il y trouve une citerne, c'est un réservoir d'eau de pluie, ça. Une citerne desséchée. Il s'y installe comme dans un ermitage. 5 jours après, les supérieurs du monastère, qui ont regretté de l'avoir congédié, ils envoient 2 moines à sa recherche. Et sur les indications de quelques bergers, Siméon est retrouvé. Alors, on a beaucoup de peine à retirer Siméon de sa citerne. Mais finalement, il revient pour quelque temps à Téléda, au monastère, et il en sort définitivement pour aller à Telnessine, à quelques lieues d'Antioche. C'est toujours en Syrie. Aujourd'hui, c'est en Turquie, mais c'était en Syrie dans ce temps-là. Et il s'y retire dans une cellule. On est au commencement du carême, qui dure 40 jours, comme vous le savez. Et Siméon demande au chef des prêtres de la région, qui est nommé Bassus, de l'emmurer dans sa cabane pour 40 jours, sans aucune sorte de provision pour pouvoir se nourrir. Mais le chef Bassus ne peut pas... Il considère cet idéal comme une tentative de suicide. Alors Saint-Siméon lui dit... « Eh bien, mettez ici 10 pains et 1 cruche d'eau. Si je m'aperçois que mon corps réclame de la nourriture, j'en prendrai. » Et alors, à ces conditions, Bassus consent à murer la porte, et à la fin du carême, il vient le rouvrir, et les provisions sont intactes, mais Siméon gît par terre. Il respire à peine, sans voix et sans mouvement. On lui humecte les lèvres avec une éponge, et Bassus lui donne l'Eucharistie. Et Siméon reprend ses forces, se redresse... Et prend un petit peu de nourriture, et puis il va faire ça 28 fois pendant les années suivantes. Il recommence ce jeûne épouvantable que le temps, puis l'exercice finit par lui rendre moins pénible. Et les premiers jours, il se tient debout, il passe le temps à louer Dieu, puis quand il sent ses forces diminuer, il s'assoit. Puis les derniers jours, il se couche, et quand il est finalement sur sa colonne plus tard, là, il va trouver moyen de supprimer ses adoucissements imaginés. Alors, Saint-Siméon, après avoir passé 3 ans dans la cellule qu'il avait au couvent, il gagne les hauteurs voisines. Là, il trouve un enclos circulaire. Puis, un endroit où il pourrait faire construire un enclos circulaire. Puis, il se fait mettre au pied une chaîne de 20 coudées, disons 10 mètres à peu près. Bon, 30 pieds, quelque chose comme ça. Et s'est attaché par l'autre bout à une grosse pierre. pourrait ne pas franchir cette espèce de rayon qui s'est tracé. Il veut vivre à l'intérieur de ça. Étrange idée. Je vous ai dit, c'est un saint très étrange. Très intelligent, par contre, vous allez voir. Et là, il se livre à la contemplation. Le corps-évêque d'Antioche, ce n'est pas le patriarche d'Antioche, c'est le corps-évêque, Mélesse, lui fait remarquer qu'il serait plus raisonnable de se lier par la volonté que par une chaîne en métal. Pas bête. Alors Siméon trouve que c'est plein de bon sens. Alors il fait venir un forgeron pour détacher la chaîne. Bientôt, la renommée de ce grand pénitent se répand au loin. Les pèlerins affluent de toutes parts. On amène des paralytiques et toutes sortes de malades et on se recommande à lui pour obtenir des enfants. Ceux qui ont reçu des faveurs demandées reviennent et proclament tous les bienfaits qu'ils ont reçus. Ils racontent ça partout. Et sans s'arrêter, ça continue constamment. On voit s'accroître le flot des visiteurs et tout le monde veut toucher ce saint, Saint-Siméon, pour emporter comme relique un petit morceau de cette tunique. Et ses témoignages de vénération lui paraissent déplacés. Il n'aime pas ça. Il trouve bien importune toutes ces foules, et pour s'en délivrer, vous comprenez, il imagine de monter sur une colonne. C'est pour ça qu'il est monté sur une colonne. C'est pas bête, finalement, quand on y pense. Trop de monde. Alors d'abord, il en fait faire une de 6 coudées. Bon, une coudée, c'est un demi-mètre à peu près. C'est la longueur du coude jusqu'au bout du majeur, hein, du doigt majeur. Alors, ensuite, une de 12 coudées, une autre de 22. Combien de temps il a passé sur chacune de ces colonnes, on ne le sait pas. Mais d'après la vie de Saint-Siméon écrite en syriaque, ce que vous venez d'entendre, c'est en des chants en araméen syriaque, n'est-ce pas? Eh bien, il a un projet d'une colonne de 30 coudées, puis les ouvriers ne l'ont pas réussi, elle tient pas. Alors, Siméon ordonne d'en construire une encore plus grande de 40 coudées, disons 20 mètres, 65 pieds, composée de 3 tambours en l'honneur de la Sainte Trinité. Et sur cette colonne, Saint-Siméon, solitaire, se tient debout, sans abri. Il est exposé à toutes les rigueurs du climat, et c'est parfois froid. Hein. Il a tout au plus pour se garantir le bonnet qui lui couvre la tête. Il est toujours exposé au regard. Il apparaît aux foules comme un modèle surhumain de force d'âme et de constance. C'est ce que disent les textes anciens. Je le répète parce que c'est important, c'est la clé pour ne pas rigoler de ce saint. Il apparaît aux foules comme un modèle surhumain de force d'âme et de constance. Est-ce qu'on n'acclame pas Jacques Villeneuve pour sa force d'âme, sa constance? Or, ce n'est qu'un sportif. Si on le fait pour les athlètes des Jeux olympiques, qui se permettent de sauter quelque part ou de courir plus vite que d'autres, pourquoi ne pas aussi admirer Saint-Siméon dans un autre sens? Il y a de quoi réfléchir là-dessus. En tout cas, Saint-Siméon se tient droit. Mais on le voit durant la prière se courber avec respect. Les assistants comptent le nombre de ses inclinations. C'est un peu curieux, ça. Mais bien comprendre que c'est dans ce temps-là. Un des conseillers de l'évêque Théodoré, son historien, là, va jusqu'à 1244 inclinations, puis renonce à compter le reste. Siméon s'incline si profondément que son front touche presque le bout de ses pieds. Cette citation, ainsi prolongée, finit évidemment par provoquer des plaies, notamment un ulcère purulent au pied. Alors un étranger qui est venu de Ravenne, n'est-ce pas, qui a été la capitale de l'Occident au siècle précédent, c'est dans le nord de l'Italie, en Émilie-Romagne, c'est une ville à visiter, c'est des basiliques remplies de mosaïques superbes, c'est une des plus belles villes au monde pour ceux qui aiment l'art sacré. Et alors il venait de Ravenne, cet homme étranger, puis il vient constater ce qui se passe. Alors, il dit à Saint-Siméon, « Tout le monde m'assure que vous ne mangez ni ne dormez. Êtes-vous un ange ou un homme? » Alors, Siméon répond, « Eh bien, montez et venez voir. » Mais en même temps, il fait apporter une échelle et l'homme monte, il palpe les mains du stylite, comme on les appelle, quelqu'un qui vit sur une colonne, on appelle ça un stylite, c'est pour ça qu'on dit Saint-Siméon stylite. Alors, il lui permet aussi de voir l'horrible ulcère. Et là, Siméon lui assure en même temps Il prend de la nourriture, il n'ajoute pas cependant. Un drame terrible qu'il souffre, c'est l'éclat du soleil qui provoque chez lui une inflammation des yeux, une ophtalmie périodique. On constate qu'à certains moments, même s'il a les yeux largement ouverts, il devient complètement aveugle. Et dans les grandes solennités, depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aurore, Siméon demeure les mains levées au ciel sans se laisser vaincre par la fatigue. Il sait les psaumes par cœur, il prie constamment, et deux fois par jour, il fait une allocution au peuple. Oui, il leur parle et intelligemment pour leur apprendre à se détacher de la terre. Vous savez, on parle beaucoup de Bouddha, 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 on n'en arrête pas d'avoir des émissions sur le bouddhisme, et c'est très beau. Mais s'il prêche la même chose, se détacher de la terre, mépriser les biens périssables, craindre les conséquences du péché et des actes mauvais, on remarque le caractère pratique de son enseignement, par exemple, quand il recommande aux prêteurs, là, ceux qui prêtent de l'argent, de se contenter de l'intérêt de 6% par an. On voit aussi son intelligence quand il engage ses auditeurs à ne pas mentir, à ne pas jurer. Il leur dit, « Si vous avez besoin de jurer, jurez par votre serviteur, c'est un grand péché et une chose redoutable de jurer par Dieu. » Il s'occupe de rendre la justice aussi. Oui, on lui demande de devenir, pour ainsi dire, un juge, et tout le monde admire l'équité de ses jugements. Et tout cela se fait après l'heure de nonne, donc après 3 heures l'après-midi, car la nuit et la grande partie des heures du jour sont réservées à la prière. Tous ceux qui sont témoins de son apostolat vantent partout son humilité, sa simplicité, sa modestie, la douceur de son accueil. Il se fait tout à tous. Il répond à quiconque s'adresse à lui, que ce soit des ouvriers, des mendiants ou des paysans, ça n'a pas d'importance, il traite tout le monde à l'égal. Hein? Tout le monde pour lui, c'est le Christ qui vient. Il a partout une renommée de thaumaturge, comme le frère André, hein, et de prophète. Il rencontre pourtant des contradictions. Il y a des moines d'Égypte, c'est bien loin l'Égypte de là, qui lui infligent un blâme sous forme de libelle d'excommunication. Il faut toutes les preuves irrécusables de sa vertu puis de son bon esprit pour désarmer l'opposition. Puis en dépit de sa façon de vivre, hein, je vous le dis, il fait preuve d'un grand équilibre et d'une grande intelligence. Son biographe, Théodoret, toujours le même, là, interrompt son récit à un moment donné pour montrer le but de Saint-Siméon. Le but qu'il a en menant une vie aussi extraordinaire. C'est un but qui n'a pu être conçu que sous l'inspiration divine, puis à bien y penser. Ce qui peut inquiéter les gens instruits, c'est plutôt fait pour attirer les foules. C'est pour ça qu'il mène cette vie finalement, attirer les foules. Convertir le monde. De tous les coins de la Syrie, on accourt pour voir ce solitaire. L'Occident aussi, c'est-à-dire l'Espagne, la Bretagne, la France aujourd'hui, la Gaule, envoie des visiteurs à Telmessine. On dit même qu'il y aurait eu une rencontre entre Saint-Siméon et Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Et ce que l'on emporte de ce pèlerinage auprès de Saint-Siméon style était autre chose que la satisfaction d'avoir vu quelqu'un d'extraordinaire. Ça, c'est comme quand on allait voir le père Pillot. On n'allait pas voir que quelqu'un d'extraordinaire. On allait voir quelqu'un qui avait la foi. Une foi si grande qu'il tomba en extase devant l'hostie consacrée à la messe. Il y a non seulement des prières exaucées, des guérisons chez Saint-Siméon de Stylite, mais aussi des conversions et beaucoup de conversions. C'est ça qui compte. C'est dans la conversion que les gens trouvent le bonheur en se détachant de leur petit moi pour se jeter dans les bras de Dieu, finalement, contre son cœur si plein d'amour. Hein. Les hauts personnages eux-mêmes ont pour Saint-Siméon une admiration et une confiance sans bornes. Hein. Il est ainsi amené à intervenir dans des questions d'intérêt général, auxquelles, par son genre de vie, il devrait rester étranger, on se dit. Mais il ne se désintéresse pas du soin des différentes grandes églises locales. Hein. Il envoie à leur propos des messages à l'empereur. Il stimule le zèle des juges, des magistrats, des chefs. Il avertit même les évêques des églises d'avoir encore plus de soins de leurs pauvres fidèles. Il est même intervenu activement auprès de Théodose II, le jeune empereur, dans une affaire de synagogue. Et les empereurs lui donnent à plusieurs reprises des preuves de leur vénération en lui envoyant des messagers. Ainsi, Théodose et ses sœurs lui envoie, alors qu'il est malade, quelques évêques sont chargés à le décider de descendre de sa colonne pour se faire soigner. Mais il n'y a rien à faire, il ne descend pas. Et Théodoret meurt avant Saint-Siméon, et c'était Antoine que l'on doit quelques détails concernant la mort de Siméon. Je viens de vous dire que son historien Théodoret l'évêque la meurt avant Saint-Siméon, Stylite. C'est à Antoine que l'on doit quelques détails qui concernent sa mort. Ne mépris que Saint-Siméon a toujours eu pour son propre corps, le rend insensible aux douleurs que lui occasionnent ses plaies. Cependant, il a le pressentiment que sa dernière heure est arrivée. C'est le patriarche d'Antioche, toujours en Syrie, Domnus, qui est averti. Il lui apporte la Sainte Communion. En 459, d'après Cosmas, un mercredi, le 2 septembre, ce saint, pour ainsi dire incomparable, s'incline sur sa colonne comme pour commencer sa prière. Mais malheureusement, il rend son âme à Dieu. À 68 ans. À la nouvelle de sa mort, le patriarche d'Antioche et 6 autres évêques, puis le chef de la milice avec 600 soldats, se rendent au pied de la colonne. 3 évêques y montent et baisent les vêtements de Saint-Siméon en disant des psaumes. Son corps est mis dans un cercueil de plomb, il est descendu de la colonne. À ce moment, le bruit de la nouvelle de la mort se répand parmi le peuple. Les Sarrasins, qui sont évidemment pas des musulmans à ce moment, l'islam n'est pas commencé, et ils sont en armes, accourent pour tenter de s'emparer du corps parce qu'ils le vénèrent tellement, ces Arabes. Mais le chef de la milice, là, dont je vous ai parlé, les en empêche. Une foule énorme se réunit autour de la colonne avec des parfums, des cierges et des flambeaux. Et le corps est placé sur un autel de marbre dressé devant la colonne, et tous les évêques donnent le baiser aux morts. Et le cercueil, déposé sur un char, est ensuite porté à Antioche, toujours en Syrie, là. Et sur le parcours, un pauvre fou, sourd et muet, est guéri. Toute la ville se porte à la rencontre du cortège. Il est déposé d'abord dans l'église de Cassianos, et le corps de Saint-Siméon est porté à la grande église un mois plus tard. L'empereur d'Orient, Léon le Grand, voudrait bien que son corps soit enseveli dans sa capitale. Mais il cède aux supplications de la ville d'Antioche et renonce à son projet. Saint-Siméon Stylite est honoré donc chez les Grecs le 1er septembre et chez nous le 5 janvier. C'est sa fête aujourd'hui. Peu de temps après sa mort, des monuments extraordinaires sont élevés au lieu même où Saint-Siméon a vécu comme ça dans la pénitence. Il en reste encore des ruines imposantes qui attirent les voyageurs à Gala al-Saman, château de Siméon, comme on dit. La basilique est celle-là même qu'Evagrius a visitée. Évagre, vous savez, on voit ça dans des textes anciens, il l'avait décrite 126 ans après la mort du saint. C'est une croix immense qui était comme ça, dont les bras s'appuyaient sur les côtés d'une cour octogonale au centre de laquelle se dressait la colonne de Saint-Siméon Stylite. La base de la colonne est encore debout. Hein. Le genre de vie extraordinaire qu'a amené ce saint est une preuve de l'ardeur, à mon sens, qu'il a mis à se détacher des créatures pour s'unir à Dieu. Le parfait accomplissement de la volonté divine telle qu'il la concevait a été le seul objet de ses désirs. Et dès lors, sur la plus petite intimation de l'ordre d'un supérieur, il aurait été prêt, du moins au début, à quitter sa colonne. Quand il s'agissait de se faire soigner en descendant sa colonne, ça, il n'acceptait pas. Il n'a pas considéré tout ça, tous ces phénomènes, comme quelque chose de grand et de rare, non. Pour lui, ça ne le plaçait pas en dehors des gens ordinaires. Il était toujours demeuré près des gens. Et par humilité, il se considérait lui-même comme banni de la société des hommes. Car pour lui, pratiquer la vertu par orgueil et vanité, ce serait tomber dans les pièges du démon. Et la véritable perfection chrétienne, on le sait tous, il me semble, ça a son fondement dans l'humilité. On peut pas chercher à être parfait en étant orgueilleux puis en s'attribuant les qualités qu'on a, les dons que l'on a nous viennent de Dieu. L'héroïque pratique de la vertu, ça doit partir de ce principe, que c'est Dieu qui nous y invite, et que nous lui plaisons en entrant dans cette voie. Ceux qui sont appelés à des grandes choses, entrer dans des grands monastères, à devenir de grands prédicateurs, à devenir des évêques, le pape, c'est Dieu qui veut tout simplement. Et le chemin de la croix, du mépris, de la pauvreté, de la souffrance, il me semble que c'est celui que Dieu le Père a choisi pour son Fils Jésus, son divin Fils, comme la marque de son amour total. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le moyen de rendre à l'homme le désir de ne s'attacher qu'à Dieu et à l'amour du prochain. Mais attention, hein? Dans la pratique de la perfection, quand on préfère ce qui a plus d'éclat aux yeux du monde, on devient prisonnier d'un orgueil secret. Si on se met à marcher avec des béquilles pour faire pitié aux autres, non, c'est pas ça qu'il faut faire. On cède alors à des instincts insignifiants, tout en cherchant à passer pour des saints. Ce n'est pas ça. Je vais vous parler d'un saint moderne qui vit encore et qui est monté sur une colonne. Ça vous donne un exemple que les choses qu'il a faites se font encore. Il est monté sur une colonne? Non, pas vraiment. Il est entré à l'abbaye de la Pierre-Quivire, où j'aurais tant voulu rentrer il y a 50 ans. Il y a 150 ans, des moines bénédictins se sont installés en France sur les pentes de ce qu'on appelle la Pierre-Quivire. C'est dans les forêts de Saint-Léger-Vauban, pas loin d'Auxerre, si vous voulez. On se rend pas là par hasard, hein, c'est une petite route de campagne qui sillonne longuement le pays. On s'enfonce finalement dans la forêt, puis on débouche sur une clairière où se dressent les bâtiments de granit rose de l'abbaye. Elle est pas tellement belle, d'ailleurs. L'hôtellerie du monastère ne désemplit pas quand même. Il y a aujourd'hui 60 moines qui sont venus là prier Dieu à l'écart du monde, comme Saint Siméon, qui reçoivent chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Les visiteurs réservent leurs cellules plusieurs mois à l'avance. Il y a tellement de monde. Il y a des visiteurs de toutes sortes, des croyants, des non-croyants, des bons chrétiens, puis des vrais mécréants. Il y a des religieux, des laïcs, des jeunes, des vieux. Ils viennent chercher au monastère ce que le cardinal Turcotte a écrit aujourd'hui dans le journal de Montréal. Ils viennent chercher une eau abondante. Parce que les déserts spirituels de Montréal ou de Paris ou d'ailleurs refuse cette eau. Il n'y en a plus beaucoup d'eau chrétienne qui coule dans Montréal et les environs. À 12h15, ce lundi, fin d'avril, où on a pu rencontrer ce moine, il y a moins d'un an, les moines chantent sexte dans l'église, le fils du midi. Une cinquantaine de visiteurs assistent et dans le chœur, il y a des coules noires qui s'inclinent. Ce sont des vêtements, hein, des habits à capuchon, là, puis c'est plein de plis en avant et en arrière, hein, une coule. Alors il se redresse, il s'assoit, et puis il y a des voix graves sous les voûtes, là. Et on les écoute, on comprend pas tout, mais on est impressionné. Puis une demi-heure plus tard, on peut rejoindre les moines dans leur réfectoire. Ils nous font partager leur repas. Ils ont abandonné, évidemment, la coule pour un habit plus moderne maintenant. Les moines, là-bas, depuis une vingtaine d'années, porte un sweatshirt à capuchon un peu sombre, une espèce de marinière. Puis, il n'y a pas d'inscription dans le dos, évidemment. C'est pas écrit Nike dans le dos. Ou Tommy Hilfiger, non. Debout derrière leur siège, ils attendent et l'abbé récite une brève prière. On s'assoit, on mange en silence et il y a un lecteur dans une niche surélevée qui donne quelques nouvelles du monde, qui lit ça dans la croix, comme on fait ici à Radio Ville-Marie le matin, le midi et le soir. Puis, il entame le 10e chapitre, mettons, d'un auteur oriental un peu obscur pour des oreilles profanes. Le repas est frugal. On mange pas beaucoup dans l'abbaye de la Pierre-Quivire. On mange moins bien que dans les abbayes de la congrégation de France, dite de Solesmes. C'est une autre congrégation de moines. Ils sont plus sévères. Ils ont une récréation par semaine. Alors ils se parlent seulement par signe, par sourire aussi. Les visages sont graves ou joyeux, sérieux, débonnaires aussi. Les regards lumineux aussi. Or Jean-Louis est entré là, il n'y a pas longtemps, était autrefois dentiste près de Mons en Belgique, dans cette région de Belgique qui est tout près de la France, tout près de Lille. Il a de petites lunettes. Les cheveux de quelques millimètres sont probablement châtains, une petite stature. Il est vif. Il a 39 ans. Il en paraît 10 de moins. Il dit, oui, j'ai fait des études de dentiste. C'était très dur. La sélection était sévère. Et je devais travailler ferme. Mais il dit, j'aurais jamais fait tout cela si j'avais su que je bifurquerais ensuite pour le monastère. Or, Jean-Louis avait des projets clairs. Il s'installe son cabinet de dentiste à Mons. Il se marierait donc avec son ami un jour, et puis ensemble ils auraient 6 enfants. Mais vers la fin de ses études, la relation amoureuse casse. Il dit, c'est difficile de dire pourquoi. Je l'aimais, puis elle m'aimait. Mais j'ai senti un jour que je devais arrêter cette relation. Je n'arrivais pas à imaginer une vie avec elle, et donc il n'aurait pas été honnête de poursuivre. Mais ce fut très dur de le lui dire. D'autant plus qu'il n'y avait pas de raison objective. Alors il passe avec succès ses derniers examens, et contracte de grosses dettes pour ouvrir son cabinet. Il voit l'installer. Il a 25 ans, la vie de dentiste commence. Mais là, il dit, je me suis demandé à quoi cela se me servirait quand j'aurai 70 ou 80 ans d'avoir beaucoup d'argent. Un soir qu'il mange chez un ami, la conversation tourne sur la religion et son ami lui parle d'un livre qui l'a intéressé. C'est le fameux « Joie de croire ». « Joie de vivre » du jésuite François Varillon. Et il lui passe des photocopies de l'introduction. Je répète, « Joie de croire, joie de vivre » de Varillon. Rentré chez lui, Jean-Louis lit les pages et tombe sur une citation de Saint-Irénée. Saint-Irénée qui a dit il y a des siècles et des siècles et des siècles, « Si vous ne croyez pas que Dieu s'est fait homme, pour que l'homme soit fait Dieu, vous n'êtes pas vraiment chrétien. » Alors Jean-Louis, et croyant, vers 15 ans, parce qu'il croyait, il a décidé de continuer à pratiquer, même si la messe du dimanche l'ennuyait plutôt. 10 ans plus tard, il croit toujours être chrétien, mais la phrase du premier évêque de Lyon le fiche par terre. Il dit, je pensais que la sainteté permettait à l'homme d'arriver au mieux, au juste en dessous du bon Dieu, mais là, je découvrais que Dieu nous mettait à ses côtés, qu'il nous invitait à partager sa condition divine. Ah, j'étais dans la cuisine, et en un instant, tout a basculé. Un Dieu comme ça, me suis-je dit, vaut la peine qu'on se donne à lui, et ce soir même, j'ai décidé de me consacrer à Dieu. Il n'y avait pas de lumière divine, ni de manifestation mystique particulière. C'était plutôt intellectuel, comme raisonnement. Mais c'était clair. Et quelques semaines plus tard, Jean-Louis va visiter un monastère trappiste, à une cinquantaine de kilomètres de Mons, en Belgique. Je connais ce très beau monastère. Et ce fut le coup de foudre. Je n'ai parlé à aucun moine. J'ai simplement suivi l'office chanter des vêpres. Et je l'ai trouvé génial. Jean-Louis trouve que 50 kilomètres, c'est trop près de chez lui. Alors il se renseigne, trouve un livre sur les monastères de France, et ça existe, il y a un beau livre sur les monastères de France, tous les monastères. Ça nous indique comment s'y rendre, les numéros de téléphone et tout. Alors il découvre que celui de la pierre qui vit est reconstruit au milieu d'une forêt. Ah, il dit, j'aimais la forêt. Et à l'été 1983, Jean-Louis, dentiste, entre pour un mois à la pierre qui vit, faire un essai, là. Et la première semaine a été horrible, j'ai tout fait dans ce silence. L'ambiance manquait de chaleur et de sourire. Mais les choses s'améliorent, et quand il ressort, Jean-Louis est convaincu. Il dit, je crois que je peux être heureux ici. Mais il connaît pas encore l'office de nuit à 2 heures. J'ai connu ça, on se lève pour l'office à 2 heures. Il faut se recoucher après, dans le froid, c'est pas facile. Et un an plus tard, l'ex-dentiste entre au monastère de la pierre qui vire. Il dit, dès que l'idée d'une consécration à Dieu m'est venue, je n'ai plus du tout pensé au mariage. Je vivais avec la phrase d'Irénée dans la tête et je me disais toujours, un Dieu pareil vaut la peine. En fait, tous les hommes sont appelés à partager pleinement la vie divine, hein, quand on y pense. Parce que Dieu se donne complètement sans compter. On oublie toujours ça chaque jour, si on y pensait du matin au soir. Ah, mais cette générosité, hein, suscite suscitait en moi, dit-il, une réponse généreuse, et ce Dieu-là m'épatait. Ce n'était pas affectif, mais il m'avait en quelque sorte tapé dans l'œil. À peine entré, Jean-Louis réalise qu'il est embarqué dans une drôle d'aventure. L'office de nuit, là, à 2 heures, nuit fiche la trouille, se lever à 2 heures du matin pour aller chanter dans l'église et se recoucher ensuite, quelle histoire! Tiendra-t-il sur la durée? Il se glisse pourtant mystérieusement dans la vie monastique, petit à petit. Puis ces 2 années de noviciat se déroulent bien, puis prononce son premier engagement de 3 ans. Et c'est alors, dit-il, que les choses ont commencé à bagarrer assez fort. De grosses remises en cause m'ont bousculé. Évidemment que les questions tournent autour du célibat, bien sûr, mais pas seulement, hein. Il dit « Dieu me veut-il ici ?» Et c'est la question qu'il se pose. Or, comme dans une famille humaine, aucun moine ne choisit ses frères. Mais si frères et sœurs de sang sont appelés à se séparer, le moine s'installe, lui, dans une communauté pour la vie. Il les a pas choisis, puis doit les endurer jusqu'à sa mort. Et c'est là tout un problème. Alors, je reviens donc à cette émission consacrée à Saint Siméon Stylite, et par la suite à Jean-Louis Verstreppen, moine bénédictin de la pierre qui vire. Ce moine de la pierre qui vire qui a essayé de sa façon d'imiter Saint-Siméon, somme toute, hein? Il dit que la dimension exigeante de la vie en communauté, c'est une conséquence directe de l'universalité de l'amour évangélique. Dieu nous demande, quoi, d'aimer tous les hommes. Il dit, nous portons tous des violences enfouies, puis il est normal qu'elles ressurgissent parfois, et c'est l'occasion de changer notre cœur. Puis alors, ces bagarres intérieures sont bénéfiques, car nous voulons changer, nous voulons nous convertir. Il dit, le philosophe grec a bien dit, connais-toi toi-même. Alors à 27-28 ans, quand je suis entré, j'ai dû refaire le tour de moi-même. À ce travail-là, s'ajoutent les années, ça se poursuit. Même si l'étape des grandes bagarres d'il y a 10-12 ans, dit-il, est capitale, car elle m'a fait découvrir que c'est Dieu qui nous convertit. Oui, c'est Dieu qui nous convertit. Ce moine a compris. Il dit, nous pouvons et nous devons, en tant que chrétiens, avoir le désir de changer notre cœur pour vivre selon l'Évangile, mais il est important de savoir que c'est Dieu qui le fait, Dieu qui le fait. Nous ne pouvons pas nous convertir sans son intervention. Alors, dans ce processus de transformation qui vise par conversion successive là, à rendre la vie de l'homme conforme à celle de son Créateur, certaines étapes, certains constats qui peuvent être très éprouvants, et on le sait tous, hein. Il a dit, ce moine dit, j'ai dû admettre un jour, et ce fut assez dur, que je ne sais pas aimer. Et c'est un constat qui pourrait être amer quand on a donné toute sa vie par amour. Mais l'humilité qu'il avait, ce moine, à ce moment-là, quand il a compris ça, c'est très utile. Très utile. Il dit, je le constate encore aujourd'hui, mais cela me fait moins de soucis, car Dieu m'apprend au rythme où il veut, qui n'est pas celui que je voudrais. Je dois donc faire ma part, vivre l'Évangile, être attentif aux frères, leur donner du temps. Le manque de temps est l'un des gros problèmes des moines. Ça vous étonne, hein? Il dit, je prie aussi, je demande à Dieu qu'il agisse. Je lui remets ce que j'ai de pire en moi, en lui disant, « Mon Dieu, débrouille-toi avec ça, pour me changer, pour faire de moi ce que tu désires. » On peut crier, « Esprit Saint, prends-moi, je suis fatigué d'être ce que je suis. » Alors le manque d'affection n'est-il pas aussi une occasion de regret des fois? Il dit, « Il y a des moments où ça tiraille. » Mais jamais au point de remettre en question ma vie ici, dit un moine, a ses chromosomes comme un autre homme, il a sa sexualité, dont on m'a dit, quand je suis arrivé ici, tu ne dois pas la brimer. Et c'est très juste, je crois, briser sa sexualité, c'est casser quelque chose qui vous sert à aller vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, c'est avec tout mon être, et donc aussi avec mon affectivité, ma sexualité, que je dis à Dieu, je t'aime. Et il ajoute, c'est très important, « Par contre, j'ai renoncé à l'exercice de ma génitalité. » On confond généralement les deux mots, dit-il. « Et cela ne m'empêche pas de rester un être sexué. J'ai aussi renoncé à l'affection d'une femme. C'est une richesse qui me manque. » Et il est important de faire l'expérience de ce manque, car nous devons être pauvres face à Dieu. Il y a une pauvreté évidente dans le célibat consacré. Si on lui demande, avez-vous l'impression de changer, de vous transformer, il dit, il y a des petites choses qui changent. dans l'affectivité, par exemple, que je voyais autrefois comme le thermomètre de l'amour. Je ne voudrais surtout pas devenir comme un caillou froid. Mais l'amour, ce n'est pas seulement l'affectivité. L'amour, c'est le don de soi, le don de son temps, même à un frère que je ne voudrais pas aider. C'est moins gratifiant pour l'affectivité, mais c'est sans doute bien plus proche de l'amour véritable, et on trouve ça chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec sa vieille sœur désagréable. La vie communautaire est faite de confrontations entre caractères différents. Hein. Ceux qui m'écoutent, qui vivent en communauté, le savent ou qui l'ont vécu. Alors, il dit, on ne se bagarre, en tout cas pas à coups de poing dans notre monastère. Mais il est vrai que des conflits peuvent surgir, la violence trouve de multiples occasions de s'exprimer. Dans la manière de donner un livre, ou de le demander, la manière de s'écrire, il dit, nous écrivons souvent des petits mots, et sont en silence toute la semaine, ils ne parlent que le dimanche. Alors, ils écrivent pour se demander un service, un bouquin, sont des bénédictins de la pierre qui vire, comme ceux d'Ankalkat, de Madiran et de quelques autres monastères en France qui sont beaucoup plus sévères que ceux de Saint-Benoît-du-Lac, comme ceux de Saint-Benoît-du-Lac. On peut aussi s'enfermer dans un mutisme total, dit-il, d'autant plus sournois que c'est ici très légal, hein, c'est la loi là-bas, le mutisme, le silence. Mais on peut aussi se demander pardon puis recommencer. La réconciliation est indispensable car nous avons tous nos faiblesses. Elle empêche la communauté d'imploser. Alors, il faut évidemment qu'ils apprennent à obéir, mais quand on lui demande ce que c'est que la sainteté, il dit en tout cas pas la perfection, car tous les saints disent « je suis pécheur ». Une consolation, tous les saints disent « je suis pécheur ». Je pense que la sainteté, dit-il, doit être quelque chose qui ressemble fort au Christ. Pour ma part, je désire être saint, mais ce n'est pas mon problème, c'est celui de Dieu. Tout homme est appelé à la sainteté, oui, tout homme, toute femme est appelé à la sainteté. Et je ne me suis pas fait moine pour être meilleur que les autres, mais pour prier pour le monde, pour aimer quoi. Mais la perfection est votre but, quand on lui dit ça, il dit « je ne le dirai pas ainsi ». Mon but, c'est laisser Dieu faire advenir ce que je suis en profondeur. J'y collabore, mais c'est Dieu qui fait le travail. Évidemment, quand il pense à l'Église qui manque de prêtres, et qu'ils sont 60 prêtres, en apparence à ne rien faire à la pierre qui vire, il se demande s'il ne devrait pas partir en paroisse, il dit « j'ai choisi une vie de prière, pas d'être prêtre, ce n'est pas la même chose, un bon moine n'est pas une garantie, il pourrait faire un curé désastreux ». La gratuité est mal comprise de nos jours, il dit « notre vie a un sens dans l'économie de Dieu, c'est-à-dire dans le plan de Dieu si vous voulez, pas dans celle des hommes ». La meilleure vie n'est pas forcément celle dont l'efficacité est visible ou la rentabilité est immédiate. Il termine en disant « le monachisme est une vocation marginale, mais ce qui compte, que ce soit dans un monastère ou ailleurs, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Chaque fois, dit-il, que je me réconcilie avec un frère, la paix avance dans le monde. Et c'est la question de fond de l'amour. On connaît l'amitié, l'amour d'un couple. Mais l'affection qu'on ressent, est-ce l'amour vrai? Aujourd'hui, je dirais, dit-il, aimer, c'est trouver les occasions de se donner aux autres, éviter de vouloir jouir pour soi. Mais je dis cela après 12 ans de vie monastique seulement, et on ne finit jamais d'apprendre à aimer. Oh, c'est comme dans un couple. Les couples ont aussi de la difficulté à apprendre à aimer. Il comprend ça, lui. C'est le père Jean-Louis Verstreppen, un moine belge qui est en France, à l'abbaye de la Pierre qui vire, et qui a une 40aine d'années. C'est à la suite de cette émission consacrée à Saint-Simon, c'est pour vous dire que toujours dans l'Église existent ces hommes, ces femmes, qui donnent tout, qui vont jusqu'au bout.